Et tu voulais pas...
Alors, je fais un résumé rapide où on en est dans le Pérec. Donc, on a terminé. Il nous restait quelques lignes dans Pérec Raphaël, mais je vais les lire, je vais les expliquer à l'oral. On va passer directement au Pérec Raphaël. Alors, où on en est? Notre but, depuis le chapitre 20, c'est d'expliquer, je fais un résumé. Notre but, depuis le chapitre 20, c'est d'expliquer comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Donc, il a créé le monde avec la parole. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné les 10 commandements, donc encore une fois des paroles, c'était aussi deux commandements, les deux premiers commandements. Le premier commandement, c'était la base des commandements positifs, je suis l'Éternel ton Dieu. Le deuxième commandement, c'est tu n'auras point d'autre Dieu. C'est quoi le premier commandement? Je suis l'Éternel ton Dieu. Accepter l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la semaine dernière, on est parti dans un long développement, qui était un peu philosophique, mais c'est important, parce que vous allez voir aujourd'hui encore, on va développer dans une autre direction. On a expliqué comment ça se fait que on parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Depuis le Chumash Bereshit, depuis le premier mot de la Torah, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec quoi? Il a créé le monde avec des paroles. Donc on a posé une question toute simple. On a dit, comment ça se fait qu'on a besoin de dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole? Pourquoi on ne dit pas qu'il a créé le monde, je ne sais pas moi, par ses mains, par... Ça veut dire quoi, créer quelque chose par la parole? Ok? Est-ce que Dieu y parle? Hein, Abraham? Est-ce que Dieu y parle?
Sûr.
Hein? Dieu y parle. Il parle tout le temps. Il n'arrête pas de parler. Comment on peut dire Dieu y parle?
D'accord?
Ah, mais je parle. Quand il a créé le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu y parle? Je vais juste prendre un petit verre dans le badois. Comment ça, le badois? Hein, Michael, est-ce que Dieu y parle? Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Je pense que t'en penses, c'est pas au retard de n'importe quel moment.
Il parle pas. On a dit qu'il parlait pas.
Hmm?
On a dit qu'il parlait pas la semaine dernière.
Alors pourquoi c'est écrit dans la Torah que Dieu y parle?
Il nous transmet quelque chose.
Alors, justement, qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Très important,
Razak. C'est sa manière de communiquer.
On a expliqué qu'en vérité, il faut jamais, et ça on va développer aussi longuement dans le chapitre d'aujourd'hui. Il faut jamais comprendre de sens littéral quand c'est écrit dans la Torah des notions physiques. Ça veut dire, quand c'est écrit par exemple dans la Torah que Dieu y parle, quand c'est écrit que Dieu il est énervé, d'accord? Quand c'est écrit que Akadosh Baruch Hu il a entendu, Akadosh Baruch Hu il a dit j'ai entendu. Est-ce que ça veut dire que Dieu y parle, que Dieu il entend, que, etc.? Évidemment, d'accord? Dieu ne parle pas, Dieu n'entend pas, il est beaucoup plus fort que ça. Seulement, quand la Torah, hein, tu entends Michael, tu veux la réponse. Quand la Torah emploie un terme comme la parole, ça veut dire que Dieu attend de moi que je m'explique dans ma tête qu'est-ce qui se passe quand moi je parle. Et le même phénomène qui s'est produit quand moi je parle, c'est le phénomène qui se passe quand Akadosh Baruch Hu il a parlé. Alors Dan, tu vas nous rappeler. Qu'est-ce qui se passe quand moi je parle? C'est quoi la définition de la parole? Rappelez-vous la définition de la parole, c'est quoi?
Je verbalise
une pensée.
Je verbalise une pensée.
Donc ça veut dire que les mots, je les avais déjà à l'intérieur. D'accord? L'idée, je l'avais déjà.
Les non récupérables.
Tout était à l'intérieur. Mais, quand je parle, qu'est-ce que je fais? J'exprime et j'extériorise quelque chose. Donc on dit la même chose. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé, c'est-à-dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé? On veut montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il a exprimé quelque chose, ça veut dire que il a envie d'exprimer quelque chose à quelque chose qui va être extérieur à lui. Sauf que par rapport à Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est extérieur à lui? Évidemment non, Chas v'Shalom. Seulement quoi? Et c'est là le cours d'aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner le sentiment comme si qu'on est indépendant. C'est là qu'on arrive au cours d'aujourd'hui, qui est un cours très 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 important. On va avancer comme on peut, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc on va développer tranquillement, on va prendre notre temps.
Tu dis que parler, c'est exprimer quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur.
Dans l'extérieur.
Alors, puisqu'il n'y a rien d'extérieur à Kadosh Baruch Hu.
Exactement.
Pourquoi on dit que, tout ce qui nous dit qu'on doit comparer pour comprendre ce qu'il fait à peu près nos sentiments, il met des mots à notre portée pour qu'on puisse les imaginer et les donner. Pourquoi, si on transpose dans lui, ça veut dire qu'il a exprimé. Pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais plutôt de l'extérieur vers l'intérieur.
D'accord, alors j'ai compris. On a expliqué la semaine dernière plusieurs choses. D'abord, on a expliqué que lorsqu'une personne parle, ça ne lui enlève rien. Tu te rappelles, on a dit qu'on peut, le quota de parole est infini, enfin infini, c'est pas infini, mais pratiquement infini, quoi. C'est-à-dire, je peux parler autant que je veux. Donc, et ça m'enlève rien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il a créé le monde par la parole? Parce que c'est pour nous montrer que Dieu ne se fatigue pas quand il crée le monde. C'est une image. Pour te dire que quand je fais quelque chose avec mes mains, je me fatigue. Quand je fais avec ma bouche, je me fatigue pas. Enfin, très peu, quoi, c'est infime. Kadosh Baruch Hu ne s'est pas fatigué quand il a créé le monde, numéro un. Numéro 2, Akadosh Baruch Hu, il a envie, on a dit, de créer quelque chose, de s'exprimer à l'extérieur. Mais le problème qu'on a, comme tu dis, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien qui est extérieur à Akadosh Baruch Hu. Alors, à quelle conclusion on doit arriver? Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner les hommes, à nous les hommes, le sentiment comme si on était indépendant. Et c'est ça le point commun avec la parole. C'est qu'il va te parler, ça veut dire qu'il va te faire croire que c'est toi qui décides.
Pourquoi on dit
exactement. Voilà, j'ai dit qu'on allait parler cette semaine du libre arbitre.
Pourquoi on dit qu'il s'est reposé le sixième jour?
Attendez, j'y arrive. Ça veut dire, mais c'est très important. Il faut d'abord comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. On va pas se disperser parce que c'est vraiment, déjà, c'est assez complexe. Ce qu'on veut expliquer aujourd'hui, c'est la notion de Tzimtzum. Dans les livres de Kabbalah, il y a des livres et des livres et des livres de Kabbalah sur cette notion de Tzimtzum. Tzimtzum en hébreu, ça veut dire quoi? Ah, c'est pas chinois, non. Tzimtzum, ça veut dire retrécissement. Contracté, compressé. Comment Dieu se contracte
zippé
à un niveau que il est toujours là, mais il te montre pas qu'il est là. Voilà. Et c'est très compliqué, ça.
Donc ça veut dire il s'humilie, tu veux dire?
Non. Parce que le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'il peut pas s'effacer, parce que s'il s'efface, le monde ne tient plus. Voilà. Donc il doit être là. Mais il doit être là sans te montrer qu'il est là.
Voilà. Il peut pas être avec nous.
Ça veut dire que pour toi, une personne peut naître et mourir sans admettre qu'il y a un Dieu. Il n'y aura aucune preuve qu'il y a un Dieu.
Il y en a malheureusement.
Bien sûr qu'il y en a.
Pourquoi malheureusement?
Il y en a. C'est comme ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de preuve. Une preuve, tu n'en as pas. Pourquoi? Non, justement, je vais juste arriver au bout du raisonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, pourquoi on appelle ça le dibour? Pourquoi on appelle ça la parole? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner le sentiment qu'on est extérieur à lui. Il va me donner le sentiment que je fais ce que je veux. Il va me donner le sentiment que c'est moi qui décide. Ça, vous comprenez, c'est quelque chose de très puissant. Quelque chose d'extraordinaire, ça.
Et pourquoi il va me donner ce sentiment, à part pour le libre arbitre?
Bonne question, on va développer.
Qu'est-ce qu'il a besoin de me donner comme justification?
Avant d'expliquer le pourquoi, il faut d'abord expliquer. Avant d'expliquer le pourquoi, il faut d'abord expliquer le comment.
C'est moi qui lui dois, lui, il me doit rien.
Tu as raison. Avant d'expliquer le pourquoi, il faut d'abord expliquer le comment. Le comment, on sait que le résultat qu'on obtient aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde que Dieu fait tourner, mais qu'il ne nous montre pas qu'il fait tourner, et que nous, il nous fait croire que c'est nous qui faisons tourner le monde. Ouais. Ça, c'est le paradoxe. Et il le fait tourner, mais c'est nous qui faisons tourner. Vas-y, Béravod.
Ça n'a rien à voir. Il maîtrise tout l'univers?
Évidemment.
C'est juste pour savoir, il n'a pas pu créer un autre monde parallèle.
Bonne question, alors je vais amplifier ta question. Qui c'est qui a créé le mal?
C'est Hachem, il a tout créé.
D'accord, alors pourquoi il a créé le mal, si c'est contre sa volonté?
Bah, il peut le maîtriser aussi.
Non, mais pour
mesurer
le bien.
Chaque élément qu'il y a dans le monde, est-ce que tu es d'accord avec moi que le verre qu'il y a devant moi ici, si Dieu a arrêté de faire vivre ce verre un seul instant, qu'est-ce qui se passe avec ce verre?
Il n'y a rien.
Il ne reste plus rien.
Pourquoi tu parles
de... Attends, deux secondes.
Le verre, il est mort.
Imagine-toi que dans ce verre, il y a du poison. Si le verre est ici, ça veut dire que Dieu fait vivre le poison. Il n'y a rien de mort. Ça n'existe pas, quelque chose de mort. On est d'accord? Alors je te pose une question, la même question. Pourquoi Dieu fait vivre ce verre? C'est la même question. Pour répondre à toutes ces questions-là, la question du libre arbitre, la question de
est-ce que Dieu fait vivre le mal en général? Parce que si c'est pas ce verre, c'est un autre.
D'accord, mais pourquoi il fait vivre le mal? Tu comprends ma question?
Je vais te donner un exemple.
Excuse-moi, je vais te donner un exemple. Imagine-toi par exemple que je demande à mon fils de ne pas faire de bêtises.
Il lui fait la bêtise.
Non. Évidemment, je lui demande de ne pas faire la bêtise. Si je lui demande de ne pas faire la bêtise, ça veut dire que moi, j'ai pas de contrôle, et qu'il fait, mon fils, il fait ce qu'il veut, mais j'espère qu'il fera pas la bêtise. D'accord? Maintenant, imagine-toi que je demande à mon fils de pas faire de bêtises, et en même temps, c'est moi qui lui amène les bêtises.
D'accord.
Attends, écoute-moi, de quoi ça a l'air, ça? Tu dis, mais attends, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, ça.
Oui, c'est
je te demande de pas faire une bêtise, et c'est moi qui te donne la bêtise.
Mais
Dieu, il fait pas la même chose?
Oui, mais non.
Il me demande de pas faire le mal, et c'est lui qui me donne le mal.
Non, mais c'est pas pareil, parce que lui, la bêtise, il la maîtrise. Il veut pas que tu la fasses, tu la feras pas.
Mais non.
Non.
Tu te l'appelles
la bêtise,
pas
le mal, c'est pour
les libre arbitre. Il te laisse un libre arbitre, mais en même temps, il le maîtrise, son libre arbitre.
C'est pour les hommes. Bien sûr, c'est pour les hommes. Mais la question est qui a créé le mal? Et qui crée le mal maintenant, à chaque instant? C'est Dieu.
Oui, mais la bêtise, quoi qu'il arrive, s'il veut que tu la fasses pas, tu la feras pas.
Donc, ça c'est évident, ça c'est évident. Mais dans la pratique, Dieu a créé le mal. Et c'est Dieu qui, c'est pas seulement qu'il l'a créé. Il le crée à chaque instant.
Mais tout est
chaque instant, il le renouvelle.
En double.
Si tu veux.
Le bon et le mauvais.
Le but de notre cours d'aujourd'hui, c'est très simple. C'est d'essayer de comprendre comment Dieu arrive à se contracter pour en même temps se cacher et même faire en sorte qu'il y ait des choses contraires à sa volonté qui sont en apparence, qui sont ici.
Des choses contraires.
Et en même temps, bien sûr, le mal, c'est contraire à sa volonté. Il veut pas qu'il y ait le mal. Tu lui dis, ne fais pas le mal. Donc en même temps, il me dit que c'est contraire à sa volonté. Et en même temps, c'est lui qui les génère.
Donc il y a des choses qu'il ne maîtrise pas.
Non. Ah, attention. Non. Ah, très bien, voilà, on y arrive. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit passer par l'étape qu'on appelle le Tzimtzoum. C'est quoi le Tzimtzoum? Le Tzimtzoum, ça veut dire que Dieu se cache d'une manière qu'on ne le voit plus. Mais il est toujours là. Rappelez-vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure. On avait expliqué la semaine dernière que la parole... Une fois que j'ai lancé une parole, est-ce que je peux la récupérer?
Non.
Dieu, des fois, il nous donne l'impression de la même chose. Que le monde a été créé et que maintenant, vas-y, sauf qui peut. On a des fois cette impression. Que le monde a été lancé depuis 5175 ans, et ben, c'est à nous maintenant de le récupérer. Et si on ne récupère pas, ben, il ne va pas se récupérer tout seul. Donc c'est comme une parole.
Quand on dit le monde ne tourne pas rond, c'est ça, non?
C'est ça, bah oui.
Bah ouais.
Ok? Donc, ça c'est notre but d'aujourd'hui. Notre but d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment d'un côté, Dieu est tout le temps présent, et d'un autre côté, il donne au monde le sentiment qu'il tombe tout seul. Et donc, du coup, il y a le mal qui est là, et tout qui est là, mais qui sont générés en même temps par un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut bien comprendre. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Echad, ça veut dire quoi?
Il est partout.
Ça veut dire qu'il est partout, même dans le mal.
Qu'est-ce que t'appelles le mal?
Tout ce qui est contraire à sa volonté.
Mais est-ce que le mal, il s'autogénère ou
contraire
il s'autogénère
à sa... Ah d'accord, sûr, c'est les avérotes, le mal.
Non, pas seulement les avérotes, le mal.
C'est pas la maladie, c'est pas la mort.
Tout.
Ce qui n'est rien qui m'échappe.
Tout.
C'est pas mal ça.
Tout ce que tu imagines qui est mal.
Rien, vraiment, il n'y a rien qui est mal. Tout est bien.
Tout est bien.
Tout est bien. Comme nous les Tova. Tout est bien.
Oui, mais une maladie, c'est mal.
Il n'y a pas de mal sur Terre.
Il y a des gens qui font les 400 coups. Des gens maintenant, on est en cours de Torah, des gens qui sont en train de faire la queue pour aller, je sais pas où.
C'est bien pour quelqu'un d'autre.
D'accord, j'ai compris.
Mais dans la Terre, c'est.
Mais le mal, c'est ce que Dieu a décidé qui est mal.
Il n'y a pas de mal.
Oui, c'est bien.
Dieu il a dit qu'il y a des avérotes, c'est assourd.
Ah, avérotes, c'est autre chose. Ah. C'est pas le mal.
C'est l'avérote, c'est le mal.
Le avérote,
c'est quoi le
i? L'état islamique, c'est bien.
Ah, le i.
Les tapés mentaux qui sont sales, c'est bien.
Gamzou le Tova.
C'est vrai, Gamzou le Tova.
Gamzou le Tova, c'est une théorie.
Excuse-moi, quand tu vois des choses comme Daesh.
Le i, oui.
Non, mais attends, voilà. Tu vois des tarés comme Daesh.
Il faut pas s'arrêter.
Qui te donnent l'impression que le monde, c'est une jungle.
Il faut pas
ils font ce qu'ils veulent.
Parce que tu le regardes à l'instant T. Mais ça se trouve, Daesh alors, va amener à ce que les Occidentaux...
Non, attends. Moi, je vois maintenant... Tard, maintenant ça, excuse-moi, chez nous, la fin ne justifie pas les moyens.
Non. Comment
ça, c'est pas dans notre religion, ça.
Non. La fin ne justifie pas les moyens.
Oui.
En tout cas, à Kadel Boko, c'est ce qu'il
faut. Ça, c'est calcul. Mais en tout cas, pour les mitzvot et les averot, je dis pas, je fais une avera pour faire 15 mitzvot après. Il y a pas.
Non, Dieu n'est pas maquillé.
Voilà. Alors, donc, je pose la question. C'est Daesh qui sont là, ils marchent à Mavézicham. C'est Dieu qui les fait vivre. Et en même temps, ils se cachent de manière à leur faire croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et Bémet, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent.
Ils font même plus que ce qu'ils veulent.
Ils font les erreurs.
Alors, comment ça marche?
Ben ça qu'on ne comprend pas.
C'est ça qu'on ne comprend pas.
C'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire, à la limite, vous savez ce que j'aurais préféré entendre?
Pourquoi tu es en train de...
J'aurais préféré que tu me dises...
C'est qu'il y a le choix?
Non, j'ai pas parlé de choix.
Non,
parce que, je veux pas... Le cours, c'est pas sur le mal. Le cours, c'est expliquer le paradoxe, comment d'un côté Dieu est là, d'un côté Dieu il est pas là. Ça veut dire, à la limite, moi j'aurais préféré qu'on me dise, Dieu il a créé le monde et il a abandonné le monde. Enfin, en tout cas, il a laissé le monde tourner. C'est plus facile.
Et que
après.
Et que le mal a été généré.
Et que voilà, que le mal a été généré et que c'est de notre faute et qu'on essaie, il faut essayer de récupérer la situation.
Donc,
mais à la limite, c'est pas qu'il n'existe pas. C'est que le monde il tourne.
Il s'en fout.
Qu'il s'en fout. Il a créé une machine, elle tourne.
Il se
on s'autofinance. Mais c'est pas comme ça.
Et le mal il s'autofinance pas là.
Ah ben non. C'est ce qu'on va expliquer, c'est exactement le contraire. On va expliquer que chaque parcelle du monde doit obligatoirement être générée à chaque instant par un Kadosh Baruch Hu. Chaque instant. Seulement, Dieu, par le Tzimtzoum, il nous donne le sentiment d'être indépendant.
Mais est-ce que l'homme peut aller au-delà de ce que Dieu avait prévu?
Bah, d'un côté oui, d'un côté non.
Oui ou non?
Bah, c'est ce que je te dis. D'un côté oui, parce que mon ressenti est que oui. Mon ressenti est que je fais ce que je veux. Mais d'un autre côté, non, parce qu'on dit qu'on fait tous partie d'un Kadosh Baruch Hu. Alors, est-ce que la main peut faire quelque chose que la tête n'avait pas décidé, alors que la tête contrôle? Bah, bien sûr que non. Mais d'un autre côté, la main, elle a l'impression qu'elle est indépendante.
Donc c'est non.
Oui, c'est non pour Dieu. C'est non dans l'absolu. Mmh. Mais dans la pratique, c'est oui. Je fais ce que je veux dans la pratique.
Dans la pratique, si c'est dans un monde d'illusion, ça n'a aucun intérêt, l'illusion.
Oui, mais tout a une fin.
Ah non, c'est pas une illusion.
Non.
Parce que si c'était une illusion, on n'aurait pas pu me punir et me récompenser pour ce que je fais. C'est une réalité.
Alors c'est une réalité qui...
Alors c'est compliqué.
Pour l'instant, c'est compliqué parce que c'est contradictoire.
C'est compliqué parce que on a du mal à comprendre finalement quelle est l'autonomie qu'on a.
Est-ce qu'on a besoin de la comprendre?
Oui, c'est important de la comprendre.
Ouais, pour savoir.
Parce qu'on doit se situer par rapport à Kadosh Baruch Hu.
Mais pourquoi? C'est qu'on est en dessous.
Bah parce que c'est une mitzvah. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est une mitzvah de chercher à se situer, de comprendre ça.
De savoir, de positionner.
C'est une il faut se positionner. Je me dis, mais finalement, qui suis-je finalement? Est-ce que je décide quelque chose? Est-ce que je suis quelqu'un? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est quelque chose? La clé de cette réponse se trouve dans le Dibour. Dieu a parlé. Si on dit que Dieu a parlé, ça veut dire qu'il a voulu extérioriser, sans pouvoir extérioriser, puisque rien ne peut sortir de lui. Mais il y a eu un sentiment qu'il a voulu donner à des êtres, le sentiment qu'ils sont indépendants.
Pour que ça soit accessible.
D'accord? Donc on va expliquer tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va développer, on va prendre notre temps, Bezrat Hashem, on va développer. Alors on va prendre le Père Ekraf Bet, chapitre 22. Alors, vous savez qu'en vérité, on va lire les quelques lignes qui restent dans le chapitre 21, parce que c'est important. J'explique à l'oral, mais il y a des mots importants. Alors, on va prendre à chapitre 21.
Je suis
en bas. J'ai expliqué à l'oral pas mal, le notion de Kimtsu, mais voilà. On va prendre la page 270.
Pourquoi je suis Gérard Kelim ?
Page 53.
Où t'as vu Gérard Kelim ?
Non, je pose la question.
Ah, on va parler de Kimtsu. C'est, mais bon. Donc on a la page 270.
Ce hein hein ou c'est 53.
Ce c'est une conséquence.
On va parler après. On va déjà se concentrer sur le... Vechol HaTzimtzumim. Alors, vous avez Vechol HaTzimtzumim ?
Ouais.
Ok. Alors, on y va. Excusez-moi. Voilà. Ok. Très bien. Alors, Vechol HaTzimtzumim. Tous les Tzimtzumim. Donc le Tzimtzum, c'est quoi ? Tzimtzum, on a dit, c'est une contraction. C'est très concentré, mais c'est très costaud. Il dit finalement, quand on dit que Dieu se contracte, c'est pas qu'il se retire. C'est simplement qu'il se cache. Ça veut dire, on peut donner un exemple. Imaginez par exemple un père qui veut éduquer son fils. Ok? Mais il veut pas que son fils sente qu'il est là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il y a deux options. Première option, le père, il s'en va de la pièce. Il est plus là. Deuxième option, le père, il est toujours là, mais il se cache. Donc pour le fils, le père n'est pas là, mais en vérité, le père est là. Ça c'est le Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? C'est que Dieu se cache.
Il est en retrait.
Alors ça veut dire quoi il se cache? Justement, ça veut dire quoi il se cache? Alors c'est une bonne question, la question que tu poses. Il ne peut pas être en retrait.
Non.
Ça veut dire quoi se cacher? Regarde bien la définition. Les astir ou les alim, à or ve'achayut animshar mitiborit barech. Dieu va cacher l'origine de la lumière, l'origine du monde. Ça veut dire comme ça. Quand je regarde le monde qui est autour de moi, est-ce que je me pose la question d'où il vient ce monde?
Non.
Est-ce que ça me dérange?
Non.
Pas du tout.
C'est un
pourquoi?
Pour vivre.
Pourquoi c'est pas évident dans mes yeux, c'est une évidence que ce monde s'est pas créé tout seul? Tu sais pourquoi? Réponse est très simple. Parce que Dieu s'est caché. Ça veut dire Dieu il te montre le résultat. Sans le producteur.
Mais pas le processus pour y arriver.
Il te montre le résultat. Le résultat, il est là. On voit le résultat. Mais il te montre pas le producteur. Il te montre pas qu'il en est le producteur. Donc, du coup, comme il te montre que le résultat, mon cerveau de ma boule peut se dire, c'est moi qui a produit tout ça. Ou bien c'est la nature. Allez, le grand mot. Mais c'est quoi la nature? Ben, la nature. C'est la même chose.
Les volcans, tout ça, c'est tout.
Mais ça veut dire qu'on peut avoir des gens sensés, pas des chmars, des gens sensés qui croient pas en Dieu.
C'est souvent le cas.
Bien sûr, c'est souvent le cas. C'est souvent les plus intelligents. Ils croient pas en Dieu. Ils disent en tout cas qu'ils ne croient pas en Dieu. Et pourtant, ils comprennent parfaitement la nature. Je dis, mais c'est quoi la nature? Ça ne le dérange pas parce que pourquoi? C'est quoi la force de la nature? La force de la nature, c'est que Dieu, il continue à produire. Donc le résultat est là, mais il cache le producteur. C'est très compliqué ça.
Depuis quand c'est caché?
Depuis la création du monde.
Depuis le début.
Tu veux dire depuis le premier jour?
Depuis le jour numéro 1.
Depuis le début.
Depuis le premier jour, il est en caméra.
Il est en caméra. C'est pas qu'il est en caméra, c'est plus que la caméra. Parce qu'il produit sans te montrer que c'est lui qui produit.
Mais il te montre même pas comment il produit, le processus, tu te le montres pas.
Ça veut dire, ni il te montre le processus, et ni il te montre c'est lui qui le fait.
On sait que c'est lui qui l'a fait, il te montre pas comment il l'a fait, mais il te dit voilà, il y a ça.
Alors, maintenant tu prends. Michael, tu as posé une question tout à l'heure, tu as dit, mais pourquoi Dieu est obligé de faire ça? Pourquoi il est obligé de se cacher? D'un côté, Dieu est obligé de générer le monde, parce que s'il ne génère pas le monde ne tient pas. Mais d'un autre côté, si Dieu nous montre qui il est, est-ce qu'on aura une autonomie?
Non.
Est-ce que Bichlal, on sera en état de réceptionner ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? C'est très simple. Vous savez, je vais donner un exemple très simple. Vous savez, là, on fait les malins. Là. On est autour d'une table, on fait les malins. Imagine un grand sadique qui rentre dans la pièce. On est tous comme des toutous. C'est-à-dire, même tu as le plus grand rave, il est comme un toutou devant lui. Et c'est écrit que devant un grand sadique, un petit rave ou un grand rave, les deux, ils sont comme des toutous. Parce que la lumière est tellement grande que tu t'éclipses devant lui. Alors c'est la même chose. Imaginez-vous devant Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu nous montrait qui il était réellement, jamais on n'aurait pu avoir une autonomie. Jamais on n'aurait pu avoir un sentiment d'indépendance. Jamais on n'aurait pu avoir un sentiment que moi je peux faire quelque chose. Zéro, c'est impossible.
Bah, après tu peux vivre avec. Avec le sang.
Non, tu peux pas vivre.
Tu
es complètement annulé.
Tu peux pas.
Tu sais comment le. Il va mettre cet exemple après, mais je vais te donner un exemple. Tu sais, il donne un exemple comme ça. Il dit, prends l'exemple d'une bougie. Tu vois, maintenant il fait nuit. J'allume une bougie. La bougie, elle sert à quelque chose. Prends cette même bougie, allume-la en plein jour.
Ça sert à rien.
Est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette bougie?
Ça
sert à rien du tout.
Bien,
tu peux allumer une petite bougie, une grande bougie, d'accord? Kiff, kiff. Pourtant, dans la nuit, la petite bougie, elle éclaire peu. La grande bougie, elle éclaire bien. Mais dans la journée, la petite, la grande, les bougies, elles valent zéro. Parce qu'on est devant le soleil. Tu t'imagines? Si on était devant un Kadosh Baruch Hu, on se serait senti insignifiant. Si Dieu nous montrait réellement qui il était, si Dieu il nous montrait le soleil, il nous montrait qui il était. Mais on se ressentait insignifiant. Quand tu te sens insignifiant, tu ne peux pas te développer.
On peut rien faire.
On peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu?
Mais comment il peut nous montrer qui il est, puisqu'il est nous?
C'est très simple. Nous montrer qui il est.
Déjà par les miracles.
Nous montrer qui il est, ça veut dire nous montrer l'origine de la lumière.
Les 10 plaies.
L'origine de l'énergie.
Toute la création qu'il a faite.
Tu vois, je vais te donner un exemple, regarde. Je vais te donner un exemple très simple. Tu vois la main? Bon. Imagine-toi maintenant que je suis un artiste, qu'avec cette main, je vais prendre un crayon et je vais dessiner. Maintenant, jamais la main va s'enorgueillir. Elle va dire, ah, t'as vu, la main, elle est magnifique, ouais, etc. Tout le monde sait que derrière la main, il y a un artiste. Il y a un cerveau, il y a une tête, il y a une personne. Imagine-toi maintenant que, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il continue toujours à envoyer les signaux dans la main qu'il va dessiner. Mais à un moment, il fait une rupture qui fait qu'à un moment, la main, elle sait pas que ça vient de la tête. Et donc, la main, elle croit que c'est moi l'artiste, c'est moi qui fais tout. Et la main, elle va s'enorgueillir. T'as vu, regarde ce que j'ai fait un super dessin. Et Bémet, elle croit jusqu'à la fin de sa vie que c'est elle qui a fait le dessin. Mais en vérité, qui c'est qui a fait le dessin?
La tête.
C'est la tête. Et la tête, elle continue toujours à faire le dessin. Seulement, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il a fait une rupture. Mais ça, c'est quelque chose qu'on on peut pas comprendre parce que chez nous, on fonctionne pas comme ça. Il a fait une rupture qui continue à envoyer de l'énergie sans montrer que c'est lui qui envoie l'énergie. Et donc, du coup, la main, elle croit qu'elle tombe toute seule.
Bah, c'est comme ça qu'on a expliqué la folie de Van Gogh.
La folie de?
De Van Gogh. Il s'est coupé.
De Van Gogh, Gogh.
Le pain.
Ah, Van Gogh, oui, d'accord. Oui.
Vincent Van Gogh.
D'accord.
C'est comme ça qu'on l'explique. Il est devenu complètement faux. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi sa main, à un moment, n'arrivait plus à produire. Et il est rentré dans une phase de démence. Sa tête l'a rendu complètement fou.
Parce qu'il
ne maîtrisait plus rien. Et il s'est coupé l'oreille et tout. C'est connu, tout ça.
Parce qu'il a donné trop d'importance à sa main?
Oui, c'est-à-dire, voilà, c'est la main qui crée tout. Et il travaillait sans arrêt, du matin au soir. Il mettait des bougies sur son chapeau, partout. Mais non-stop. Il dit, voilà, ma main, elle est en train de créer. Mais alors, c'est pas que sa main qui crée.
On raconte qu'il y a un grand physicien aux États-Unis. Juste pour aller dans cette direction. Il y a un grand physicien aux États-Unis, un chirurgien de la main. Le plus grand expert de la main. Je pourrais vous trouver le nom, si vous voulez. Vraiment un expert, c'est-à-dire il te connaît toutes les phalanges et tous les petits détails, d'accord? Un expert. Et une fois, il a raconté, en tout cas, j'ai entendu dans un cours comme ça, quelqu'un de sérieux, il avait donné le nom et tout, il avait dit qu'une fois, il était en train de réfléchir à la main, à la complexité qu'il y a dans la main. Et tellement il a réfléchi, à un moment, sa main est devenue paralysée. Il n'arrive plus à bouger la main. Il a expliqué, il a dit pourquoi. Il a dit parce qu'en vérité, tant qu'on ne réfléchit pas à la main, alors automatiquement c'est un automatisme, mais dès que tu lui donnes trop d'importance, automatiquement même ton cerveau il n'arrive pas à suivre, il dit mais comment c'est possible quelque chose comme ça? Et sa main s'est paralysée pendant quelques instants. Bon, après il s'est un peu calmé et après sa main elle continue à fonctionner. Ça c'est un grand chirurgien qui avait raconté ça. Pour revenir à notre sujet, qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le Tzimtzum? Le Tzimtzum ça veut dire que Dieu se cache, pas que Dieu n'est pas là, que Dieu se cache. Vous vous rappelez on avait fait le cours sur la Megillah? Megillat Esther. Uh-huh. C'est quoi Esther, on avait dit? C'est qu'il se cache. C'est pas qu'il est pas là, c'est qu'il se cache. Ça veut dire quoi ce voile? Ça veut dire quoi se voiler? Ça veut dire que il peut pas montrer qui il est aux hommes parce que sinon on peut pas recevoir, sinon on peut pas recevoir. Donc il doit continuer à donner sans montrer qu'il est là. Velachen, c'est pour ça. Gamken nidmelahem or vechayut adibur shel makom ba'ucha mulbash bahem keilu hu davar muvdal ma'uto va'tzmuto itbarer rak shenu shach pemenu itbarer kimo dibur shel adam minafsho. Maintenant on va comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit? La parole, David, une fois qu'elle a quitté ma bouche, est-ce que je peux la rattraper?
Non,
impossible à rattraper.
On écrit, oui.
Alors, tu sais le sentiment qu'on a. En fait, on peut différencier le monde en deux catégories. Il y a les croyants et les non-croyants. On va reprendre l'exemple de la main. D'accord? La main dans laquelle j'ai mis une rupture. Voilà, j'ai mis une rupture ici. Et en vérité, la main continue à dessiner. Mais qui c'est qui envoie l'énergie à la main? C'est le cerveau. Bon. Et maintenant, il y a deux catégories. Première catégorie, c'est les non-croyants. Qu'est-ce qu'ils disent les non-croyants?
Il n'y a pas de tête.
Il n'y a qu'une main. Tu racontes du pipeau, j'ai pas vu, j'ai la tête, donc il n'y a pas de tête. Ça, c'est les non-croyants.
La tête est dans la main.
La tête, c'est la main. Et c'est nous qui avons tout créé, il n'y a pas de tête. Ça, c'est les non-croyants. Un croyant, qu'est-ce qu'il va dire? Un croyant va dire, bon, j'admets qu'il y a une tête, parce que je crois, la croyance qu'il y a une tête, mais je ne la vois pas, la tête. Donc, qu'est-ce qu'il va dire le croyant? Le croyant, il va dire, en tout cas, c'est ce qu'il a l'impression, il va dire que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une énergie qui s'est séparée de lui. Il y a une énergie qui s'est séparée de la tête, et que maintenant, elle est indépendante dans la main. Ça, c'est un deuxième niveau. D'accord? Ça veut dire, je crois qu'il y a un Dieu, mais je me dis que ce Dieu-là, il a fait un élément qui est indépendant. Et c'est le sentiment qu'il me donne, parce que j'ai le sentiment que je fais ce que je veux ici. S'il y a un patron, pourquoi il parle pas? Si Dieu, c'est le patron, pourquoi il parle pas? Donc, ça, c'est le sentiment que Akadosh Baruch Hu nous donne. Il nous donne le sentiment que quoi? Il nous donne le sentiment qu'il y a une parole, mais que cette parole est détachée. Enfin, quelle est la émouna que nous, on doit avoir en tant que juifs? On doit avoir la émouna que même si on a l'impression que le monde est détaché d'Akadosh Baruch Hu, en vérité, qui c'est qui fait vivre le monde à chaque instant? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais vous comprenez que c'est très difficile à réaliser ça. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on vit. Ça va à l'encontre de ce qu'on ressent. Tu comprends? Quand j'ai le sentiment que je suis indépendant, tu me dis non, en vérité, t'es pas indépendant, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à arriver à cette conclusion. Donc finalement, ça peut être qu'une émouna, qu'une croyance. Très compliqué. Ok? Donc, ach le gabé akadosh bankrou. Donc, le point qu'il veut expliquer ici, c'est que c'est très important ce qu'il dit ici. À la limite, vous savez ce qu'on aurait dû dire? On aurait pu dire comme ça. On aurait pu dire, Dieu, il envoie l'énergie, à un moment, il y a une rupture, et après, à partir de ce moment-là, la main est indépendante. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas, parce que rien peut être indépendant d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le sentiment d'indépendance est uniquement pour la main. Mais par rapport à la tête, il maîtrise toujours la main.
Ça veut dire que tout le haut de la tête, de la main, il est invisible, c'est tout.
Ah non, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire, pour ça, l'exemple de la main, il n'est pas parfait. Parce que, dans l'exemple de la main, à un moment, il y a une rupture. C'est-à-dire, dit, bon, à un moment, il y a une rupture, il dit, à la main, tu te débrouilles. Là, il te dit, à un moment, c'est pas qu'il y a une rupture. On va donner à la main le sentiment qu'il y a une rupture. Mais Béhémet, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de rupture. Donc, si tu veux, il y a la vision du côté des hommes, et il y a la vision du côté de Dieu.
Il ne peut pas avoir de rupture, parce que c'est une continuité.
Oui, mais par rapport à nous les hommes, il y a une rupture. Évidemment qu'il y a une rupture.
Même déjà, le corps en lui-même, là, du haut en bas, tout est connecté.
Mais
donc,
par rapport à nous les hommes, évidemment qu'il y a une rupture par la création du monde.
Il y a un jour où on dévoile, ou non?
Mashiach, ouais.
Non, celui-là ou le deuxième?
Ma chère, Baruch Kolbassar, Chaim.
Comment on va supporter?
Moi, tu bois ce que tu veux. Tu peux
c'est écrit que lorsque ma chère va venir, Chaim, lorsque ma chère va venir, Akadosh Baruch Hu, il va
faire enlever les rideaux?
Enlever le rideau devant le soleil. Et c'est écrit, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit que les tzadikim, ils vont guérir avec la lumière du soleil. Et les réchaïm vont brûler avec la lumière du soleil. Le Tanya explique dans Shaykhut Vemuna, il dit c'est quoi le pshat? C'est quoi le sens?
On va tous mourir.
Des réchaïm, bien alors, qu'est-ce qu'il dit le Tanya? Il dit comme ça. Il dit là-bas, il dit qu'en vérité, nous maintenant, on se prépare au grand dévoilement de Mashiach. Et quand Akadosh Baruch Hu va ouvrir le rideau, les réchaïm vont être brûlés par ça, parce qu'ils sont pas prêts pour ça.
Mais pourquoi tu dis Chazé Shalom? Il y a trois cours, ou il y a quatre cours, ou il y a cinq cours, je sais pas. Tu nous as dit, oui. Le cours avec les Benoni, les Rechaïm.
Oui, on est le rachat du Tania, on n'est pas des Rechaïm au sens propre.
Ah, mais tu nous as dit, en réalité, ce livre-là, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la vérité? C'est la façon de rendre accessible tout ce qui est peut-être concentré dans...
Mais on n'est pas des réchaïm dans le din, dans le jugement. Non. On ne sera pas jugé comme des réchaïm.
Tu parles des réchaïm dans le din.
Dans le din.
D'accord.
Okay. Rachar, Velo. Alors, Rachar, 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 Velo, Chazak. Hein, je vous rappelle bien, Chazak. Alors, ça fait plaisir. Ah, les gabés à Kadosh Baruch Hu. Vous avez dans les mots? On va terminer avec ça, le chapitre 21. Ach legabe akadosh baruch hu en shum tzimtzum ve'ester ve'elem mastir umalim lefanav. C'est un grand paradoxe qu'on dit. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un très très grand paradoxe. On parle dans beaucoup de livres de Kabbalah. D'un côté, qu'est-ce qu'on te dit qu'akadosh baruch hu il se cache? S'il se cache, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, l'homme, je ne vois plus la lumière, je vois le noir. Mais par rapport à akadosh baruch hu, il ne s'est pas caché. Tu me suis?
Non.
C'est incompréhensible.
Non, mais je te suis pas.
Ça veut dire, pour reprendre l'exemple du père qui se cache tout à l'heure avec son fils.
Le père, il sait qu'il se cache.
Non, le père, il se cache pas en vérité.
Non, il est vraiment caché.
Pour le père, il se cache pas. Il donne au sentiment, il donne à son fils le sentiment qu'il s'est caché. Mais en vérité, le père, il était devant le fils, sous son nez.
Bah oui, parce que le père et le fils.
Mais le fils, il a l'impression que son père n'est pas là.
Les appels de frère, c'est le recadrage alors?
Non, mais c'est un oui. truc de fou ce qu'on est en train de dire là.
C'est un truc de fou. Là, on va devenir fou là. Hein.
Bah
parce que c'est impossible.
C'est pas logique.
Mais attends, il te fait un.
Non, t'as pas compris. Michael, non, c'est pas ça. Non, t'as pas compris ce que j'ai dit. Écoute bien. À la limite, ça aurait été plus simple pour nous de dire Dieu se cache et c'est tout. Ouais. Non, Dieu ne se cache pas.
Ah, il est ouvert, il est là.
Par rapport à Dieu, il te fait croire qu'il se cache, mais il se cache pas.
D'accord.
Il me donne le sentiment qu'il me cache, qu'il se cache.
Dans la vue d'ici.
Illusion, exactement.
C'est ça.
Mais Béhémet, il se cache pas. Pourquoi? C'est un pasouk dans Tehilim qui dit Kachashecha Kaora, que pour Dieu l'obscurité est comme la lumière. Gam Chosher le Hachir Mimeka, que même l'obscurité ne peut pas obscurcir devant un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obscurité, c'est seulement pour nous les hommes. Nous on croit qu'il se cache. Et Béhémet, Dieu ne se cache pas.
C'est une question de sens,
tu lui parles
de vue, de...
Mais c'est très compliqué à comprendre ça.
Non, mais parce que
il est là sans être là.
Même dans l'obscurité, il ne se cache pas, ça veut dire que même dans l'œil, il ne se cache pas.
Exactement.
Alors moi, il faut que je m'explique. Cette histoire de l'œil.
Ça veut dire quoi?
Parce que, c'est, tu m'excuses,
oui, ils c'est entendent
quoi, voir, ils entendent faire, comme ils agissent, même si c'est... Ah, c'est
mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis.
Mais ce qui s'est passé avant aussi.
Tu connais Ena? Non. Otage de l'EI, journaliste, ouais. En France 2. Il a dit, il a écrit un livre, et il a dit que l'EI, c'était pas le plus, le plus grave en Syrie. Le plus grave, c'est Bachar al-Assad. Tu vois?
Ils sont tous graves les uns avec
les autres. Ah oui, mais tu vois, donc c'est.
Mais en même temps, il était otage de l'EI.
Marloquette qui est plus grave.
Qui te dit, c'est pas, on peut pas dire, tu sais pas où il est le mal et le bien.
Non, parce que d'où il était, il a peut-être pas vu
le mal. Non, c'est bizarre qu'on sait.
Non, on sait pas. On sait pas. Je sais pas qu'est-ce qui est.
La Torah!
Voilà.
Ah. Ça arrive, ça aussi.
Mais il y en a
pas. La Torah nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Ouais. Merci. Je reprends. Donc là, on commence à comprendre un petit peu la notion de Tzimtzum. Alors, ça, c'est une grande... Et ça, c'était d'ailleurs une des grandes marloquettes qu'il y avait entre le Baal Shem Tov et ses opposants. La question était... Je veux dire un peu ça...
Même si... C'est pas chargé.
Tu veux de la carte?
Non, mais c'est juste, si c'est clair, c'est juste c'est dans le mal que c'est pas.
Attends, je veux juste vous donner les définitions.
Attends, juste une chose qu'on a dit, parce qu'il faut qu'on
m'en
quelque chose.
Je vais donner. Attends,
le mal à l'œil. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout.
Non, mais bon, d'accord. Je parle de l'œil, mais comme
oui,
ça.
Oui, même la Shoah, tout, c'est pas le mal. C'est pas le mal.
Non, la Shoah, c'est pas le mal.
C'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est pas le mal. Le mal, c'est les Averot. Et les Averot, c'est pour les Juifs. Un Juif,
les Allemands, le marché mal. Les nazis, c'est des gens bien ou des gens pas bien?
C'est des gens qui ont été envoyés par Dieu.
Non, attends, oublie Dieu, s'il te plaît.
Ils sont bien, eux.
Non. Dieu, il a fait ce qu'il devait faire. Je parle en tant qu'homme. Ce qu'ils ont fait, c'est bien ou c'est pas bien?
Mais ils ont été inhumains.
Ils ont été...
C'est Dieu qui les a envoyés. C'est des pions.
Oublie Dieu, je te dis.
Mais je peux pas l'oublier. Il est parti.
Regarde par rapport à Mitzvot et à Averot. Ce qu'ils ont fait, c'est bien ou c'est pas bien?
Ils ont pas de Mitzvot.
Évidemment que c'est grave.
Par rapport à cette chose
de matériel. C'est bizarre,
t'as mal. Ça fait du mal.
Alors, je vais reprendre. Pour donner une définition.
De parfois comme ça,
Ah oui, je sais, mais bon.
Pour donner la définition en deux mots, on va définir ça en deux mots. C'est un des grands points, un des grands sujets sur lequel le Baal Shem Tov était en marloquette avec ses opposants. En deux mots, c'est est-ce que Tzimtzum Kipshuto ou Tzimtzum Eino Kipshuto? Je traduis. Est-ce que le Tzimtzum, est-ce que la contraction, il faut la comprendre au sens littéral ou est-ce que c'est pas au sens littéral? En d'autres termes, quand dans les livres de Zohar, quand dans les livres du Harizal,
On te dit que Dieu s'est contracté. Est-ce que ça veut dire que Béhémet, Dieu s'est contracté? Ou est-ce que ça veut dire que Béhémet, Dieu ne s'est pas contracté, mais c'est moi, l'être humain, qui ai le sentiment qui s'est contracté?
Ça.
Le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il dit? Le Baal Shem Tov, il dit l'option numéro 2. Bah ouais. Il dit Tzimtzum Eino Kipshuto. Il dit Dieu, Béhémet, ne s'est pas contracté. Et ça, c'était un des grands points de Machloket qu'il y avait entre le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Que le Baal Shem Tov, il disait Dieu est partout. Et même dans le mal, Dieu est partout. Ah, t'as l'impression qu'il s'est contracté. La contraction n'est pas Kipshuto. La contraction est que pour nous les hommes. Nous les hommes, on a l'impression. Mais Béhémet, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est partout de la même manière. Dans l'endroit mauvais, dans la boîte de nuit, dans la synagogue, il est aussi présent dans l'un comme dans l'autre. La même chose. Sur ça, il y avait le Gaon de Vilna.
Tu n'échappes pas à Dieu.
Sur ça, il y avait le Gaon. C'est pas seulement que tu n'échappes pas à Dieu, c'est qu'il est autant présent dans l'un comme dans l'autre.
Oui, pas
sur ça, il y avait le Gaon de Vilna qui disait.
Ce qui permet de faire.
Gaon de Vilna n'était pas d'accord. Gaon de Vilna, il a dit, comment on peut dire que Dieu, il est aussi présent dans une, comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est aussi présent dans une, dans un Makom Tum'a, dans un endroit d'impureté que dans une synagogue? C'est pas possible. Comment on peut dire? C'est le même Dieu qui a dit que faire les mitzvot n'est pas la verot. Comment tu peux dire qu'il est présent autant dans l'un comme dans l'autre?
Mais il a créé la
et sur ça, on a vu que le Baal Shem Tov va donner des preuves. Comme les preuves qu'on va dire ici. Qui sont étayées plus longuement dans Shaar Echoud Ve'Emouna. On étudiera Bezrat Hashem dans la suite. Et sur ça, on a vu que quand on étudie les textes de Rabbi Chaim de Volozhin. Rabbi Chaim de Volozhin, qui était l'élève principal du Gaon de Vilna. On voit que sur ça, le Rabbi Chaim de Volozhin, il suit la vie de l'Admor HaZaken. Parce que c'est mistaber, c'est logique ce qu'il dit ici. Mais que c'est quoi la logique? La logique, c'est que même si nous, les hommes, on a l'impression que Dieu, il s'est contracté, mais la contraction est une occupe juste. La contraction n'est pas au sens littéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est le même avant la création du monde, après la création du monde. À Kadosh Baruch Hu, pour lui, il n'y a pas de tzimtzum, il n'y a pas de contraction. Il est invariable. À Kadosh Baruch Hu, la lumière, l'obscurité, c'est la même chose. Il n'y a pas de tzimtzum pour Dieu.
Pour la malchoute, c'est une plaque en fer avec un cave en dessous.
Ça, c'est l'impression que nous, on a les hommes.
C'est comme ça qu'on l'explique.
Ça, c'est l'impression que nous, on a les hommes. Nous, l'impression que nous, on a les hommes.
De visualiser, de matérialiser des choses.
À Kadosh Baruch Hu, nous donner l'impression qu'il n'est pas là.
Non, je n'ai pas dit ça.
Bah si. C'est le tzimtzum.
Non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'il s'habille à la hauteur des kélim pour pouvoir remplir les kélim.
On va donner un exemple. Un exemple qui revient souvent dans la Kabbalah. Prenez par exemple la lumière du soleil. Il y a le soleil qui tape très fort. Imaginons qu'on a pleine journée, le soleil tape très fort. Je mets un rideau. Pourquoi je mets un rideau?
Pour filtrer.
D'accord, ça peut être pour des raisons d'intimité, mais en général, c'est pour atténuer. Okay. Donc je vais atténuer la lumière du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, par exemple, il tapait avant à 100%. Dans la pièce. Maintenant, dans la pièce, il va taper à
40%.
Ok. Donc, il y a une différence. Avant le rideau, il tapait à 100. Après le rideau, il tape à 40. Si on prend l'exemple du Tzimtzum, qu'est-ce qu'on va te dire? Si on dit que Tzimtzum est no kipshuto, ça veut dire qu'en vérité, Béhémet, le soleil, après le rideau, il tape toujours à 100.
Bien sûr qu'il tape toujours.
Mais sur le carreau. Non, mais dans le soleil, c'est pas comme ça. En vérité, après le rideau, le soleil continue, Béhémet, à taper à 100. Seulement, toi, après le rideau, t'as un ressenti comme s'il tape à 40.
C'est ça. Mais il continue toujours à chauffer de la même manière.
Comme tu peux te mettre de l'autre côté du rideau et dire.
Bien sûr, c'est difficile à comprendre parce que pour nous, on est dans un monde binaire. Ça veut dire où il se cache ou il se cache pas. Là, on te dit, il te donne le sentiment qu'il se cache, mais en vérité, il se cache pas. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, parce qu'il remplit la.
C'est un très concret douche qu'on aurait étudié ici. Je pense un très douche très puissant. Parce que souvent, en général, quand on dit Dieu, il se cache, je dis bon, Dieu, il se cache, c'est-à-dire de loin, il nous regarde. Je dis bon. Voilà, c'est-à-dire il est là, mais bon, je sais qu'il est là, je sais qu'il regarde.
Il agit caché, c'est ça que je.
Le Tani, il va beaucoup plus loin que ça.
Il agit pas caché.
Il dit, c'est pas simplement que Dieu, il s'est caché, que je sais qu'il est derrière.
On va faire simple. Dieu est lumière et Dieu est obscurité.
Eh ben non. Dieu n'est pas obscurité.
Il est que lumière.
Oui, mais pour nous.
Oui, mais tu es dans ton rêve.
Pour nous.
Mais le ressenti, c'est pas le même.
Nous, on cherche.
Je vais donner un exemple. D'accord, je vais donner un exemple. Par exemple, quand on parle de la Shoah, vous avez donné l'exemple de la Shoah. Dieu, il s'est caché pendant la Shoah.
Non.
Attends, doucement. Bien sûr qu'il s'est caché.
Non.
Bien sûr. Bon, attends,
ils sont sortis des camps. Le gars Rabbé a dit, j'ai vu Dieu dans les camps.
D'accord.
C'est pas caché.
Ça arrive au bout du raisonnement. Bien sûr qu'il s'est caché à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il s'est caché. Il nous a pas montré ses cheshbonotes. Il s'est caché. Seulement, il y a deux manières de comprendre il s'est caché. Soit tu vas dire que Béhémet, il s'est caché. Ça veut dire que Béhémet, à Kadosh Baruch Hu, il s'est caché. Il nous regardait de loin et c'est tout. Viens le Tania, il te dit, Dieu, il s'est pas caché. Il nous a donné le sentiment qu'il s'est caché. Mais Béhémet, il était là aussi. Il était autant là pendant la Shoah que ce qu'il était avant la Shoah. Comment je peux comprendre? Je peux pas comprendre. Parce que pour moi, les hommes, Dieu, il s'est caché.
Est-ce qu'on a besoin de comprendre ça?
D'accord.
On cherche à comprendre. La question c'est, est-ce que, parce que là, maintenant, on cherche à comprendre.
Mais évidemment.
Mais est-ce qu'on a, on a envie de comprendre?
Mais c'est très important de comprendre que, c'est très important de comprendre qu'à aucun moment, Dieu a perdu ou a atténué le contrôle du monde.
Non, jamais.
Mais si tu dis que c'est mais si tu en as besoin, c'est qu'on a envie. Il a mis un rideau.
Non.
Tu m'as dit qu'il joue.
Il a pas mis le rideau.
Non,
il t'a fait croire qu'il t'a mis un rideau.
C'est toi qui l'as mis le rideau.
Non, il a mis un rideau sur mes yeux. C'est différent. Excuse-moi.
Il t'a fait croire qu'il a mis un rideau.
D'accord.
Et le rideau, des fois, tu crois qu'il est plus fort, qu'il est moins fort. Mais en vérité, il n'y a pas de rideau.
Il a fait comme on fait aux ânes pour qu'ils avancent. On leur met des œillères, comme ça, ils avancent.
D'accord.
Donc, il a fait à peu près la même chose pour nous. Seulement, il y a toujours le coche qui fouette l'âne pour qu'il avance.
Si tu veux, là, à Kadosh Baruch Hu, il te fait croire qu'il y a un rideau. Et il te fait croire que des fois, le rideau, il occulte un peu plus, il occulte un peu moins. Donc des fois c'est la Shoah, des fois ça va mieux, des fois ça va, etc. Mais Béhémeth, il n'y a pas de rideau.
Mais dans tout ce que tu expliques, ça, tout ça, bon,
encore, d'accord. Le rideau, c'est une illusion que l'homme perçoit.
Non, c'est une illusion que Dieu a créée pour l'homme.
Oui, voilà, mais que l'homme, que enfin accessible. L'homme est...
Il y a un truc que je comprends
que
pas.
Que ce soit accessible pour l'homme.
Ces mecs, là, je crois pas. L'intimité, vous oubliez, ça sert à rien.
Il y a un truc que je comprends pas.
Il n'y a pas de private VIP, staff.
Il a généré le mal. Puisqu'il est présent partout, il génère, il fait, il crée le mal.
On a quelque chose pas. Il a créé le
Sartol
et les Sarara, donc c'est normal.
C'est une très bonne question que tu poses.
Tout a été créé en...
Là, la question, ça, c'est le thème du chapitre 22.
Le plus et le moins.
Alors, j'explique sa question. Il pose une très bonne question, Michael. Michael, il dit, ça explique. Ça explique. Non, je pose une question au prochain. Michael, il dit comme ça. Il dit, ce qu'on a expliqué, ça explique le fait que Dieu, il te donne le sentiment qu'il se cache. Mais en vérité, il ne se cache pas. Ça explique le fait que, bon, dans la vie de tous les jours, des fois on comprend, des fois on ne comprend pas. Mais ça explique toujours pas comment ça se fait que Dieu fait vivre le mal.
Voilà, comment il peut laisser ses horreurs.
Parce que, est-ce que ça veut dire que le mal n'est pas du mal? Bien sûr que le mal, c'est du mal. C'est Dieu dans la Torah. Notre indicateur de vérité, c'est quoi? Notre indicateur du bien et du mal, c'est quoi? C'est la Torah. Donc la Torah est vraie. Si la Torah te dit que certaines choses sont mauvaises, alors pourquoi Dieu les fait vivre?
Justement, pour
te mettre
dans le droit chemin.
C'est ça.
Tu mets dans le bon chemin. On dit on apprend toujours de nos fautes.
Ça veut dire
donc
quoi? Ça veut dire
une faute, c'est quelque chose qui n'est pas bien.
Est-ce qu'on peut dire, ça veut dire comme ça,
pour qu'on puisse s'élever.
Ça veut dire, mais si tu dis qu'en vérité Dieu ne se cache pas, ça veut dire que le mal est autant bien que le bien.
Mais non, mais ça c'est un jugement de valeur.
Non, ça tu mets une hiérarchie.
Ben non, parce qu'on a dit que Béhémeth, Dieu ne se cache pas.
Si tu mets les deux sur le même plan.
Parce que c'est quoi le mal? Le mal, c'est Dieu qui se cache. Mais si tu dis que Béhémeth, Dieu ne se cache pas. Ça veut dire qu'en vérité, le mal est aussi bien que le bien.
Non, parce que le bien domine toujours, la lumière domine toujours sur l'obscurité.
J'ai compris.
Tu prends une chambre noire, tu mets une toute petite lumière, ça t'éclaire toute la... Ben, c'est la même chose.
Mais le mal...
Donc le mal, c'est l'obscurité.
Mais le mal n'est pas mal, en vérité.
Ben si.
Pourquoi il a l'air mal?
Mais il t'aide à prendre conscience du bien.
Dieu ne produit pas de mal.
Non, le mal, c'est un état.
Il n'y a rien qui est indépendant. Alors comment ça marche?
Et même le bien, c'est pas indépendant.
Comment ça marche? Ok.
C'est toi qui le fais.
Alors, on va avancer un petit peu.
Juste une question, là, je dois
la différence entre le gon et...
C'est que le mal, c'est Sheker, donc c'est quelque chose de temporel. De temporaire, pardon.
Mais qui c'est qui crée ce Sheker?
C'est Hachem qui crée le Sheker.
Comment ça marche?
Pourquoi?
Pas pourquoi, avant pourquoi.
Non, non, mais d'accord.
Comment ça marche?
Excuse-moi.
Non, mais c'est
comment ça fonctionne?
Non, mais avant d'arriver à pourquoi, faut d'abord comment. Comment ça fonctionne? Comment ça marche?
Les fautes des Juifs.
Mais comment c'est possible?
Si tu dis un truc comme ça, ça veut dire que toute la Shoah, elle est utilisée par les Juifs. Elle est justifiée. C'est chaud, là. Tu veux t'attirer des coups.
Non,
des coups de batte de fer.
C'est par Dieu. Et Béhémeth, c'est Dieu qui a fait la Shoah, c'est pas shoot.
Il n'y a pas des rabbanim qui ont dit, d'Afka, que... Voilà, Dieu il a envoyé la Shoah à cause des avonats des
vétérans. Ah, n'importe quoi. T'es bêtise.
Et tous ceux qui sont morts qui étaient religieux et
t'es bêtise,
religieux,
bêtise.
N'importe quoi.
Mais, non, mais je te dis, j'ai pas dit que personne n'a raison.
Okay, bon. Tu peux pas comprendre.
Mais, je te dis que voilà. Y a
pas tout le monde peut attraper les raves, tu sais.
Il y en a qui diront que Dieu a été dépassé.
Vas-y, je vais parler comme ça.
Pas mal.
Non, d'ailleurs, je comprends pas. Ceux qui sont sortis de la Shoah, souvent. De par cette incompréhension, ont arrêté de pratiquer,
oui.
Ont arrêté de croire. C'est parce qu'ils sont restés dans un état d'incompréhension et de culpabilité.
En vérité, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par la Shoah. Quand on leur demandait où Dieu était pendant la Shoah, ils ont répondu, la question qu'on s'est posée, c'est où Dieu n'était pas pendant la Shoah. Bon.
Pour revenir à cette
question, il faut réussir à le faire.
Oui.
Si on dit que Tzimtzoum, Enokipchuto,
qu'il s'en aille, le soldat. Il pas arrêté.
D'accord.
Je comprends pourquoi il y a certains. Je comprends pas pourquoi il y a certains endroits où je n'ai pas le droit d'aller avec d'avoir chez Big Boucher.
J'ai compris. Encore une fois, c'est que par rapport. Par rapport au système que Dieu a créé, à l'illusion qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée, par rapport à cette illusion, il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises. Et donc là, effectivement, par rapport à ça, je dois faire attention. Et bien même, je dois faire attention, parce que je suis un homme, je ne suis pas Dieu.
Non, mais je ne suis plus dans l'illusion, maintenant je sais maintenant.
Oui, mais...
Je sais que la gdoucha, entre guillemets, la présence divine dans les toilettes est la même que dans la synagogue. Pourquoi je ne peux pas aller aux toilettes avec mes tefillines?
Ok, je te donne un exemple. Une fois, le rabbi de Gour a donné l'exemple suivant. Je l'ai donné. Non, c'est une bonne question. Une fois, je donnais cet exemple-là. Je crois que je donnais cet exemple-là au cours de Tania. Une fois, je ne sais pas quel cours je donnais ça. Une fois, le rabbi de Gour, il était avec ses élèves. C'était une nuit, on ne pouvait pas étudier la Torah. Une nuit du 25 décembre. Alors, à quoi ils jouaient les élèves? Il y en a qui jouaient aux échecs, il y en a qui jouaient aux dames. Et il leur a dit, est-ce que vous savez c'est quoi l'enseignement qu'on peut tirer des dames? Alors, comment ça marche, les dames? D'accord, donc t'as une sorte d'échiquier, ça s'appelle comme ça?
Un damier,
d'accord. Donc ça s'appelle un damier, et on avance. Alors un pion, il peut avancer dans quelle direction?
En avant, en oblique.
Seulement en avant.
En diagonale.
D'accord? Il peut avancer seulement en avant, jamais en arrière. Bon. Il y a des règles.
Avec la dame, si tu peux en arrière.
Il y a des règles. Attends, doucement. On avance. Et une fois que tu arrives en haut, là tu deviens une reine ou une dame, je sais pas comment vous appelez ça. Bon, on appelle ça une reine. Tu deviens une reine. Et quand tu deviens une reine, la reine, elle peut aller où? Elle peut aller où elle veut. La reine, elle peut aller où elle veut, elle n'est pas limitée.
Mais toujours en diagonale.
Oui, d'accord, mais oui, ça dépend, ça discute, ça dépend des règles.
Non, il y a des règles.
Toujours en diagonale.
Bon. Toujours en diagonale.
Ça dépend des règles qu'on a érigées avant le... Bon, peu importe. En tout cas, elle va où elle veut. Elle va plus seulement en avant, elle peut aller en avant comme en arrière. Alors, Rabbi de Gour, il a dit comme ça. Il a dit... C'est la même chose. Quand on avance dans la Torah, au début, tu es obligé de suivre exactement ce que Dieu t'a dit, à la lettre. C'est-à-dire, Dieu te dit avance, c'est les mitzvot. Reculer, c'est la averot. Tu peux aller que dans une direction, pas dans une autre. Mais une fois que tu arrives en haut, une fois que tu deviens un tzaddik, c'est pas que tu peux faire une avera. C'est que tu peux te permettre de faire des choses que pour d'autres personnes, ça paraît borderline. Ouais. On le voit, c'est des fois des tzaddikim qui font des trucs que tu comprends pas. Voilà, par exemple, exactement, des fois, des choses que tu comprends pas, des choses qu'un tzaddik fait que tu comprends pas. Parce que quand tu arrives en haut, quand tu es en haut, tu peux aller dans toutes les directions, tu es devenu une reine. Vous comprenez? Bon. Alors, pour revenir à notre question, alors, Mickaël, qu'est-ce que t'en penses alors? Est-ce que Dieu il se cache ou il se cache pas?
Il nous a mis un voile de l'air en nous donnant l'illusion qu'il se cachait, mais il est toujours présent.
D'accord.
La seule question qui reste entière, c'est le mal. C'est tout. Tout le reste, ça va. Mais le mal,
chapitre 22.
C'est la brasse.
Tu as raison, bonne question. Donc, Mishum, She'ein Atim Tsumim, Davar Nifrad, Mimeinu Itbarer. Puisqu'il faut comprendre que le Tsimtsum, d'accord, donc le Tsimtsum n'est pas quelque chose de séparé de Dieu, Chas v'shalom, et là seulement, qui aden kamtsa, c'est comme, donc, cette sauterelle, dilevouché, miné oubé, que son vêtement est de lui-même. Alors ça, je vais expliquer. Ça, c'est un exemple que le Zohar amène. On dit comme ça. En général, il y a les animaux, donc il y a le corps de l'animal, et il y a la carapace. La carapace et l'animal sont deux choses différentes. On est d'accord? Mais il y a une sorte de sauterelle qui s'appelle le kamtsa. Il y en a qui disent que c'est pas une sauterelle, il y en a qui disent que c'est un reptile. Et que ce reptile-là, les vouchés, dit le Zohar Minéoubé, ce reptile-là, la particularité qu'il a, c'est que sa carapace, c'est son corps.
C'est un exosquelette.
D'accord? Ça veut dire qu'il a pas de carapace, mais il a une carapace.
C'est son corps. C'est un corps.
Mais sa carapace, c'est son corps. Et le Zohar utilise cet exemple-là pour montrer que celui qui le regarde extérieurement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais il a une carapace. Mais en vérité, Béhémeth, il n'a pas de carapace, c'est son corps. Alors c'est la même chose. À ce moment-là, pour nous, c'est l'autre côté. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous donne l'impression qu'il y a une carapace, qu'il y a un hefsek, qu'il y a un tzimtzum, qu'il y a une contraction, qu'il y a une séparation, qu'il se sépare, qu'il se cache. Mais en vérité, la carapace, c'est le vêtement. La carapace, c'est le corps. En d'autres termes, ça veut dire le voile, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de différence. Seulement pour celui qui regarde extérieurement, il croit que c'est une carapace.
Comme les avions furtifs, il n'y a rien dans le radar, mais il y a les avions furtifs.
Hein. Oui, non, mais là, ça veut dire la carapace, c'est le corps. Comment tu appelles ça en français?
L'exosquelette.
Exosquelette?
Quand le squelette, il est à l'extérieur,
au lieu d'être à l'intérieur. Ça constitue.
Et donc la carapace, c'est le corps. C'est ça. Ça, c'est ce qu'il dit ici. On appelle ça le kamsa.
Je crois qu'on n'y a pas beaucoup. Hein,
c'est oui.
Ce que j'ai dit, Dieu a été dépassé de dire Hadjab, c'est pas de moi. Hein. C'est de ce que j'ai compris de Zecharia, qui dit Anikat Saftimeat Veamazrulera. C'est une phrase de Zecharia, un avis, qui dit Akadosh Baruch Hu, il dit j'avais prévu quelque chose, et eux, ils ont aidé encore à faire beaucoup plus que ce que moi-même j'avais prévu. Le mal avait été prévu par Dieu pour la Shoah, pour les Égyptiens, pour tout. Mais les Égyptiens, quand il avait dit Veinu au table, ils vous asserviront. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait par eux ? Il a fait beaucoup plus que ce que Dieu avait lui-même prévu. Dieu a été
zélés,
dépassé entre guillemets.
Ils ont été zélés, ils ont été.
C'est ça que j'ai dit, c'est pas.
Ils ont été zélés.
Il faut comprendre après.
Une mission. Non, mais, okay,
c'est une des ça. Explications.
Tel que ils ont pu Dieu, être... il a été zélé. Enfin, ils ont été zélés. Il a été dépassé, pardon.
Ils avaient une mission.
Dépassé, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit.
Ça, c'est tel que c'est perçu par les hommes.
Ça, oui, ça, c'est connu.
Tel que c'est perçu par les hommes.
Mais non, autrement, il ne peut pas les punir.
Oui, j'ai compris. Encore une fois.
Ils ont un libre.
Il faut faire, je pense, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal, parce que nous, on analyse les choses telles que nous, on les perçoit. Ouais. Ce qu'il veut t'apprendre dans ce périple-là, il te dit, il faut comprendre qu'il y a une autre manière, que tu ne comprendras jamais, parce qu'on n'est pas des créateurs, on n'est pas le créateur, on ne comprend pas. Mais il y a une autre manière de comprendre, qui est la manière du créateur. Et pour le créateur, il n'y a pas ces différences-là, le caché, pas caché, etc. En vérité, ce n'est pas caché. C'est un sentiment que moi j'ai en tant qu'une personne qui a été créée. Mais ben, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de tzimtzum. Je vais donner juste quelques psukim parce que c'est très important. Ici, en quelques psukim, ici, il donne des preuves parce qu'il fait des preuves pour dire ça. Très puissant ce qu'on est en train de dire ici. Quelques mots.
Il y a des mots contraires dans la sortie d'Égypte.
Ah oui, partout.
Dans la sortie d'Égypte, ils auraient dû sortir, ils n'auraient jamais dû traîner 40 ans dans le désert, etc. etc. C'était prévu pour qu'ils aillent directement.
Des fois, on a l'impression qu'il est dépassé.
Israël.
Il est dépassé.
Et après, on
changement de plan.
Changement de plan. Ils ont fauté. On fait un détour par le désert.
S'il y a changement de plan, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'était prévu, mais en fait, c'était prévu.
Non, mais ça veut dire que, alors voilà, c'était prévu ou c'était pas prévu?
Ça veut dire qu'il y avait des options, il y avait des voies. Tu prends cette voie-là, tu vas là.
Qu'est-ce que Dieu a prévu?
Je sais pas.
Il y a plusieurs voies.
Qu'est-ce que Dieu. Il y a une seule voie, ce que Dieu a prévu.
Non, enfin, il y a.
Si on dit que, en réalité, si on dit que, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne l'impression de se voiler, donc de se contracter, pour nous laisser l'impression d'être libre. D'avoir le sentiment d'être libre de notre vie.
Juste pour qu'on existe au moins.
Juste pour qu'on
existe. Sinon, on n'existerait pas.
Exister, ça veut dire oui ou ça veut dire non.
Voilà.
Par rapport à ce qu'on te présente. Alors, si on te dit, on te présente la rue, tu dis non, et ben, si on te dit tu vas à droite, tu vas à droite, tu obtiens ça, tu vas à gauche, tu obtiens ça. Zéro. Il y a deux voies.
Mais ça, c'est tel que nous, on perçoit la chose.
Peut-être.
Mais en vérité, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il a déjà prévu ce qui allait se passer, et ce qui allait prévu, c'est ce qui va se passer.
Mais donnez alors s'il a déjà prévu ce qui allait se passer. C'est ça la question.
Non, c'est une autre question, ça. Encore une fois, tu cherches, depuis tout à l'heure, tu rentres dans le pourquoi. Pourquoi, c'est une autre question.
Non, je rentre pas dans le pourquoi.
Si, pourquoi il a fait ça?
Non, mais attends, pourquoi en réalité, tu me dis, pour comprendre le pourquoi, il faut commencer par le début. D'accord, j'ai compris.
Pour comprendre le pourquoi, il faut d'abord comprendre le comment.
Ça va.
Tu vois ce que je veux dire?
On a dit qu'il s'est contracté. Ça va, c'est bien. Il s'est contracté, on nous donne l'illusion.
Non, il s'est pas contracté.
C'est là qu'on est en train de dire. Tout le Tania, c'est qu'il s'est pas
contracté. Il s'est pas contracté.
Oui, enfin, excuse-moi.
Il te donne le sentiment qu'il s'est contracté.
Il me donne le sentiment qu'il s'est contracté. Il me donne l'illusion de croire que je suis, que je suis presque indépendant. Seul, indépendant, oui. Sans les fils.
Il te donne le sentiment qu'ici, il y a 1% de lumière, alors qu'avant, il y avait 100%. Alors que Bémet, il y a 100% ici.
La question, c'est comment ça s'appelle? C'est
qu'on ne voit pas.
Pourquoi il me donne cette illusion d'être libre alors que je ne le suis pas? Alors que je suis déjà déterminé. C'est-à-dire que déjà mon point de départ, c'est A, et le point d'arrivée, c'est B. Et moi, je pense que je vais pouvoir faire C, D, Z, alors que lui, c'est déjà que je vais aller à B, sans avoir eu le choix de pouvoir faire ça. C'est
très bonne question.
C'est ça.
C'est très bonne question. Quel intérêt il a de ça?
C'est quoi cette pièce?
À quoi ça sert? Ça sert à rien.
Que tu ailles le
Sahara et Onesh.
D'accord. Non, mais.
Tu ailles dans les meilleures conditions.
Encore une fois. À quoi ça sert? Ça veut dire en d'autres termes.
Au final.
Je me lance dans un projet.
On discute en fait.
D'accord. De toutes les façons, le projet, c'est moi qui va le faire. J'envoie quelqu'un pour faire quelque chose. Mais quoi qu'il va faire, de toutes les façons, moi, je ferai la chose comme je veux. Alors je dis, à quoi il sert ce bonhomme?
Va directement,
fais ce que tu veux, c'est tout, ne nous prends pas la tête. D'accord?
Tu as compris?
Voilà, non, on a compris ta question. Mais encore une fois, là, ta question, c'est le pourquoi. Ça, c'est chapitre 36.
Ah ouais.
On va y arriver, tu as le livre, tu peux voir. D'accord?
Même si je lis, je comprends pas.
Mais ça, c'est une autre question. Il faut déjà comprendre le pourquoi.
D'accord.
pas le comment, pardon. Ok. Alors, dans les mots.
Mais il y a l'explication.
Alors, juste un truc.
Bien sûr qu'il y a une explication.
Il faut comprendre c'est quoi le organus alors. Si le tsimtsum n'est pas. Qui...
Encore une fois, ça c'est tel que c'est perçu par rapport aux hommes.
C'est quoi le
réveil. On parle de beaucoup de choses. On parle de la lumière cachée.
Perçu aux hommes. C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est vrai.
Alors,
d'accord, c'est vrai.
Donc, il est
seulement,
pas, donc, il est
seulement, cette différence-là, à savoir, par exemple, qu'il y a le Olama Tzilut, Olama Bria, d'accord, et qu'il y a des sphères célestes, et que le Gan Eden, et que c'est plus haut, et que c'est plus bas, et qu'il se cache plus, et qu'il se cache moins, et que des fois il se cache un peu plus, un peu moins, et qu'il y a une lumière cachée pour les Tzadikim, qui est Machiar, et qui va ressortir. Ça, c'est que nous, on perçoit la chose. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, tous ces niveaux, c'est kiff-kiff. Il est partout en 100%. Il n'y a pas de filtre. Il est partout en 100%. La seule différence, c'est comment nous, on va percevoir ça.
En fonction des personnes.
On crame pas.
Quoi ?
On crame pas.
Parce qu'on ne crame pas, parce que Dieu nous a donné ce sentiment d'indépendance. Il nous a donné ce sentiment de voile, parce que sinon, on aurait cramé.
Pour nous protéger.
Sinon, on aurait cramé instantanément. Non,
mais attends, on ne crame pas parce que on est quand même dénué. On est empreint d'intelligence, on est empreint de recherche de compréhension.
On est six enfants.
Ça veut dire qu'on ne prend pas un choc comme quelqu'un qui serait.
Pourquoi on ne prend pas un choc ? On ne prend pas le choc parce qu'on ne nous montre pas ce qui se passe réellement.
Prends d'abord mes valettes.
Si, imagine-toi par exemple que moi je crois que je me lance dans un projet, je crois que je gère, et qu'à un moment on me montre qu'en vérité j'ai jamais rien géré, qu'il y avait une personne qui a tout fait à ma place. Je me sens insignifiant.
Oui. Mais c'est pour ne pas parvenir à ça.
C'est exactement, on ne veut pas arriver à ça. On veut que la personne sente qu'il a fait quelque chose. Donc c'est pour ça.
C'est le plus de l'effort.
On ne lui montre pas ce qu'il a fait.
C'est
voilà.
Pour donner du scout.
Je ne rentre pas dans le pourquoi. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. On n'est pas là pour comprendre le pourquoi. On est là pour comprendre comment ça se passe. Comment, ce qu'il veut expliquer, c'est le paradoxe. Comment d'un côté, Dieu fait tout, d'un autre côté, c'est moi qui fais. Et elle est dans le même temps, d'après ce qu'on a expliqué. Pourquoi ? Parce que Dieu me donne l'illusion qui s'est cachée. Alors dans les mots. Comment Shikatuv, comme c'est écrit, Ki Hashem Hu Ha'elokim. C'est écrit, Veyadata Hayom Va'ashevota El Levavecha. On le dit tous les jours dans le Alenu. Tu sauras aujourd'hui et tu comprendras, Ki Hashem Hu Ha'elokim. Que Hashem, Adonai, c'est Elokim. C'est quoi Hashem ? C'est quoi Elokim ? C'est quoi Hashem ? C'est quoi la différence entre Hashem et Elokim ? Hashem, c'est Dieu qui est plus haut que le monde. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Puisque Hachem, c'est Yud Kevavke, c'est Haya, Ove, Iye. C'est le passé, le présent, le futur en même temps. Ça veut dire que c'est plus haut que le monde. Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva, la nature. Nous, quand on voit maintenant les choses, qu'est-ce qu'on a l'impression? Qu'il y a Hachem, il y a Elohim. Il y a Dieu tel qu'il est au-delà de la nature, et il y a Elohim, c'est Dieu tel qu'il est dans la nature. C'est pas la même chose. Il y a Dieu qui est au-delà de la nature, il y a Dieu tel qu'il est noyé dans la nature. Quand on va arriver à Mashiach, quelle conclusion va arriver? On va arriver à la conclusion qui est Hachem, ou Elohim. Que Hachem, c'est Elohim. C'est kif kif. Ah, pourtant, quand j'étais ici-bas, en Galout, j'avais l'impression qu'il y a Hachem qui est au-delà du monde et il y a Elohim qui est dans le monde.
Tu l'as dit,
mais quand Mashiach va venir, on va te montrer que tout ça, c'est la même chose. Qui est Hachem ou Elohim? Bashamay vimal ve'alaharet mitachat. Dans le ciel, tout en haut, et dans la terre, tout en bas. Ça veut dire du niveau le plus haut au niveau le plus bas, en od. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Il y a un élément qui s'appelle Dieu. Kif kif. Ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais été altéré. Ça a jamais. Il n'y a rien. C'est toujours à 100%. Et ça, c'est pour ça que le Halenu, c'est une fila extraordinaire. Le Halenu, c'est une prophétie qui nous raconte ce qui va passer lorsque ma chair va arriver. Dans le Ve'alken Nekavelecha, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous amener Mashiach. Et quand Mashiach va venir, Bashamayim imal ve'al haaretz mitachat en od. 100% de lumière. Mais évidemment, on n'en est pas là. Évidemment, nous, à notre niveau, il y a le Shamayim. Et dans le Shamayim, il y a le Mima'al, il y a les très très hautes. D'accord, les sphères célestes qui sont très très hautes. Il y a la haaretz, il y a la terre mitachat, ceux qui sont tout en bas. Et évidemment, pour nous, il y a ceux qui sont tout en haut, ceux qui sont tout en bas. On peut pas les comparer. Quand Mashiach va venir, on va comprendre que tout ça, c'est qui est Hachem, who est Elohim, que c'est kif kif, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le chidouche. Mais encore une fois, on n'y est pas là aujourd'hui. On n'y est pas là dans le sens que, en vérité, on y est déjà. Mais on ne le montre pas. Je ne sais pas si je vous ai expliqué que, le rabbi, il explique, il dit qu'en hébreu, comment on dit l'exil?
Gola.
Et comment on dit la libération? Geoula. Quelle est la différence entre les deux? Le Aleph. Qu'est-ce qui change ce Aleph?
Tout.
Aleph, c'est la lumière.
La première lettre. Or,
Ça veut dire que la réalité messianique est déjà là. Seulement quoi ? C'est quoi le problème ? Nous, les hommes, on ne la voit pas. Qu'est-ce qui se passe lorsque Mashiach arrive ? Dieu, il allume la lumière. Et quand il allume la lumière, il te montre, il te dit, voilà ce que tu avais déjà. Mais je le montre maintenant. C'est tout.
Bon, allez, moi je me casse parce que ça devient un cours de méchérie.
D'accord ?
Mais c'est exactement comme rentrer dans une pièce qui est éteinte, qui a ses meubles, qui a sa disposition, qui a
et
tout.
Après, tu fais rentrer
on voit rien. Alors, on ne voit rien, donc on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais effectivement, quand tu allumes...
Là, c'est encore plus fort. C'est que la pièce, en vérité, est illuminée.
Et toi, tu la vois sombre.
Mais moi, je la vois sombre.
Donc, c'est une perception.
Et donc, moi, je viens, hein, tu comprends. C'est-à-dire qu'il y a la lumière du soleil, mais moi, Dieu, il me cache le soleil. Donc, moi, je suis là avec ma lampe de poche en essayant d'éclairer. Et à un moment, Dieu va allumer le soleil. Hein, je me sens pas un imbécile quand il y a la lumière.
C'est un peu comme si on portait des lunettes avec des verres totalement opaques.
Quand tu as une impression comme ça.
Voilà, c'est ça, ouais. Et je crois qu'il n'y a rien alors qu'en réalité, il y avait tout.
Mandy, quand tu as une impression, parce que là, Dan, il dit, c'est une impression liée à un sens. Donc là, on parle d'un machal qui est purement physique, qui est lié aux yeux. La lumière Begashmiut avec les yeux Begashmiut. Mais maintenant, quand tu parles de sentiment que finalement, Dieu, il n'est pas là parce qu'il y a la touma, Dieu, il n'est pas là parce que tu es dans les WC, Dieu, il n'est pas là parce que si, parce que ça, parce qu'il y a le rideau, là, ce n'est pas lié aux yeux, c'est pas lié... C'est lié à quoi ? À une émotion, à un sentiment ? C'est lié à quoi ?
C'est la même chose.
C'est que
Dieu fait en sorte que... Dieu fait en sorte, il me donne une illusion, que la réalité n'apparaît pas comme elle est réellement.
C'est ça ? C'est ça, une illusion.
C'est une illusion.
Il tronque la réalité. C'est exactement le même débat que...
Si tu veux...
Pourquoi Dieu, il envoie l'oubli ?
Il programme, il t'a programmé, c'est comme une machine, tu vois.
Dieu, il envoie l'oubli.
Il a programmé la machine.
Aux hommes, mais pas aux femmes. Non, non, je... Elle nous oblige. Non, mais Dieu, 20 ans après, te sort des
dossiers. Il nous envoie l'oubli, c'est pour notre bien. On ne sert pas avec la main gauche.
Merci.
On sert avec la main droite.
On sert
les failles avec la main droite, Matrila.
Mais il est gaucher, peut-être, non ?
Moi, je suis gaucher. J'ai un livre entier sur le dinim qui est d'ailleurs ici, qui demande à être étudié. Donc,
Non, mais il a raison, il a vu un truc qu'on n'a pas vu.
Elle tunisait un peu tard, je te vois pas, mais je t'entends.
Bon, alors.
Pas de l'oubli, mais bon.
Oui, c'est ça, c'est la même notion.
Oublié, là.
Dieu, il envoie l'oubli pour qu'on continue d'exister, parce que sinon, on serait tellement attristé de tout ce qui se passe qu'on serait tout de suite...
Donc encore une fois, donc c'est des illusions.
Dans un état
c'est-à-dire la réalité est toujours là. La réalité est toujours là.
Bien sûr.
Mais Dieu, il me donne des illusions. Des illusions d'indépendance, des illusions de mort. Même la mort, est-ce qu'une personne peut mourir ?
Non.
Ça existe.
C'est un changement.
C'est
un
Neshama,
on est dans un monde plein d'illusions.
Une partie, elle.
Alors, on va lire ensemble.
Si Dieu, Mashiach, il va se dévoiler,
oui.
Pourquoi il aura encore besoin d'un intermédiaire, le Mashiach ?
Parce que ça sera, si tu veux, il peut pas allumer la lumière à 100%.
C'est un moré.
Ah, donc jamais ça sera allumé à
100%. C'est impossible.
C'est un moré.
Je peux pas allumer. S'il allume la lumière à 100%, on arrête d'exister. Mais il va allumer grande lumière. Si tu veux, pour montrer ce qu'il y avait réellement. Et là, tu vas voir que bon, c'est la lumière. Mais allumer à 100%, il peut pas. Parce que sinon on n'existe plus. On brûle. On peut pas tenir. Alors, comment je suis tout ma comme arrière, comme c'est expliqué dans un autre endroit. D'accord? Donc, dans les mots. Velachen, c'est pour ça. Je veux donner un exemple aussi juste après. Un très bel exemple qui ramène ici dans ce livre. Un très bel exemple. Imaginez par exemple que vous voulez expliquer une idée compliquée à un petit enfant. D'accord? Il vous demande une question d'économie ou je sais quoi. Et vous allez lui donner un exemple. Maintenant, vous êtes pas capable, l'enfant n'est pas capable de comprendre la chose si vous lui expliquez au sens littéral. Donc vous allez devoir lui donner un exemple.
Un machal.
Et l'exemple, c'est quoi un exemple ? C'est quelque chose qui est proche de ce que l'enfant vit, donc de ses notions, de ce qu'il connaît dans la vie, de ce qu'il côtoie dans la vie de tous les jours. Et là, ça va être à sa portée, là, il va le comprendre. Alors, pour l'enfant, quand l'enfant, il entend l'exemple,
il comprend.
Pour lui, c'est une réduction.
Il croit qu'il comprend.
Pourquoi ? Parce que pour lui, l'exemple, il croit que le concept qu'on lui a donné, c'est l'exemple. Mais l'exemple, c'est très réducteur.
Ouais.
Mais par rapport au maître, quand le maître il a utilisé l'exemple, est-ce que pour lui l'exemple était réducteur ? Non, pour lui, son idée était dans l'exemple.
Il s'appuie sur l'exemple.
Seulement quoi ? Par rapport à celui qui a reçu, l'exemple était réducteur. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu fin ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'on a la même situation, que moi j'ai donné un exemple à quelqu'un, pour qu'il comprenne ce que je veux dire. Pour moi, l'exemple était une reproduction fidèle de mon idée, et je ne sens pas comment j'ai réduit mon idée, parce que c'est une reproduction fidèle. Mais pour celui qui m'a écouté, qui n'a pas mon séchel et qui ne sait pas ce que j'ai derrière la tête, pour lui c'était une réduction. Donc on voit que la réalité peut avoir deux sens. Qu'en même temps, c'est une réduction pour un.
Pour le Talmid ou pour un témoin?
Pour le Talmid, c'est une réduction.
D'accord.
Mais pour le Rav, ça n'a pas été une réduction. Pour le Rav, il a tout donné. Tout est dans le Machal.
Alors, je vais mettre de...
Je
vais donner un exemple qu'on amène à Chassidout. On dit, par exemple, si on veut donner un Machal à quelqu'un pour lui expliquer que Olam Atzilut, c'est doux. C'est la douceur. Alors, on va lui dire, hein, est-ce que tu as déjà goûté une pomme? Est-ce qu'une pomme, c'est doux? Il dit oui, j'ai goûté la pomme. Une pomme, c'est doux. Alors, tu vois la douceur de la pomme. Eh ben, c'est comme ça que Atzilut, le Olam Atzilut, c'est le Gan Eden. Comme ça, c'est la douceur.
C'est pas vrai.
Alors, attends, deux secondes. Exactement. En fait. Alors, pour moi, qui est maintenant, on m'a donné le machal de la pomme. Pour moi, c'est une réduction, parce qu'on a réduit Atzilut à une pomme. Mais pour celui qui m'a donné cet exemple, c'est pas une réduction. Pourquoi c'est pas une réduction? Parce que pour lui, il te dit, c'est le même concept. Donc pour lui, il sent pas qu'il a réduit la chose. Donc ça veut dire que l'exemple a réduit pour moi, celui qui a réceptionné le message, mais pour celui qui a donné le message, il n'y a pas de réduction ici.
Ouais.
Il a son message, et d'ailleurs, dans
le message reste entier.
Le message reste entier. Seulement, il a été adapté. Mais le message est là.
Il a été simplifié.
Simplifié. Mais pour celui qui l'a entendu, il a été simplifié. Bon, je vais juste... on va revenir maintenant, je referme la parenthèse. Notre but ici, c'est d'expliquer quoi? D'expliquer que pour nous les hommes, Dieu se cache, mais pour Akadosh Baruch Hu, la réalité reste la même. Ouais. Velachen, c'est pour ça, maintenant on va comprendre une phrase que le Zohar nous dit, qu'il dit Kamé devant Dieu, Kamé, pas, d'accord, Kamé devant Dieu, d'accord, Kula, hein, Kula Kela Chashiv, que devant Akadosh Baruch Hu, Kula Kela Chashiv Mamash, devant Akadosh Baruch Hu, tout, Kela Chashiv Mamash, c'est comme si que ça n'existait pas, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est insignifiant. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre que le Zohar te dit qu'il y a un niveau dans lequel devant Akadosh Baruch Hu, tout est insignifiant? Maintenant, on commence à comprendre. Parce que Bémet, par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Seulement par rapport à nous les hommes. Alors là, effectivement, il y a des différences de niveau. Juste pour conclure. Le Zohar, il dit qu'il y a trois niveaux. Je vais dire dans les mots. Memale Kolalmin, Sovav Kolalmin, Kula Kame Kalachashiv. Traduction. Premier niveau, c'est Memale Kolalmin. Je vis dans le monde et je sens que Dieu est présent dans le monde. Mais bon, je suis quand même là. C'est-à-dire que je sens que Dieu est présent dans le monde, mais il y a quand même des détails dans le monde.
Comment tu le sens?
Je sens, dans ma vie, je sens que Dieu est là, je sens que Dieu est présent. C'est-à-dire, je garde mon existence. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Sovev Kolalmin. Je sens que Dieu dépasse le monde. Mais il y a un monde quand même. Troisième, ça veut dire je sens que Dieu est plus fort que le monde, mais ça, c'est pas pour autant que je sens qu'il n'existe pas. Je sens que Dieu est plus haut que tout ça, mais bon, je sens quand même que j'existe. Troisième niveau, Kula Kame Kela Chashiv. J'arrive à la conclusion que devant Akadosh Baruch Hu, tout ça c'est kif-kif, c'est la même chose. Ça veut dire que tout est rien devant Akadosh Baruch Hu.
Est-ce que c'est possible qu'une personne, une seconde dans sa vie, elle se pense comme le troisième niveau?
Alors,
une seconde, pas tout.
Il peut pas, on ne pourra jamais ressentir comme le troisième niveau, puisqu'on n'est pas conçu comme ça. Mais on peut admettre que la réalité est comme ça.
Et qu'est-ce qui est signifiant pour Akadosh Baruch Hu?
Qu'est-ce qui est signifiant? Lui.
Il est tout.
Il est tout. Il est tout.
Ah ouais. Donc tout est signifiant.
Plus tu montes vers Dieu, plus tu comprends qu'en vérité on n'est rien. Et c'est pas on n'est rien, on est tout. Il est tout, donc on n'est rien, donc il est tout. Donc on est rien.
Hein? Donc on sert à rien.
Non, c'est
non,
pas
non, non, c'est au contraire. Contraire.
Au contraire.
Non, ça sert à rien.
Non, tout au contraire.
On sert à rien, il sert à tout.
Mais non, on fait partie de Dieu.
Attends, il n'y a rien, mais il y a moins que rien.
Ça va, super.
Est-ce que Dieu, il sert à rien?
Mais non, il sert à tout.
Alors, tu es Dieu.
Mais oui.
Oui, d'accord, mais bon, c'est lui qui fait tout.
Tu vois, les autres disent je suis Charlie, nous on dit je suis Dieu.
Mais tu es dedans.
Tu es une partie de Dieu, c'est différent.
Non, il n'y a pas de partie.
Oui, je suis dedans, il n'est pas dedans.
C'est pas possible une partie.
Si.
C'est pas lui qui
peut pas réduire à une partie.
Si, parce qu'il est
pourtant, vous dites toujours un chélec.
C'est moi qui. Non, on peut pas dire une partie.
Tu dis chélec quand même.
C'est pas possible de dire partie, parce que si tu dis partie, ça se décompose.
Il est en joie, il y a une petite partie.
Bémet, c'est pas une partie, Bémet, c'est une entité.
C'est même l'inverse.
C'est Echad. Echad, c'est une seule entité.
C'est vrai, il a raison. Avenir, c'est pas lui qui est en moi, c'est moi qui suis en lui.
Non, les deux.
Non.
C'est ni l'un ni l'autre.
Voilà.
Echad, ça veut dire quoi, Echad? Ça veut dire que c'est une seule entité en vérité. Mais encore une fois, mais encore une fois, l'illusion qu'on a, c'est pas ça.
Non, parce qu'on dit qu'on a tous une partie.
On peut pas parler d'une partie.
Si, tout le temps est. C'est lui.
En tout cas, voilà. Donc la conclusion, vous savez, le rabbi disait, je vais juste terminer avec ça. C'est aussi une chute qui fait ici, mais une chute qui est très importante. Il amène ici. Il dit, un bataille juste deux minutes. Il dit comme ça. Les dernières années, on a vu que le rabbi a beaucoup parlé. Il a dit, ouvrez les yeux, ma chère arrive. D'accord. Vous me suivez, Rabotaï, dommage vous ratez ça.
Non,
attends deux secondes, on n'a pas fini le cours.
Non, mais c'est pas justement.
On n'a pas fini, fini. Alors, il dit comme ça. Il dit, les dernières années, le rabbi parlait beaucoup. Il disait, ouvrez les yeux, ma chère arrive. Et ça veut dire quoi, ouvrez les yeux, ma chère arrive? Et il dit, il ramenait le passage qui disait, Inezoman Rakotlenu, que ma chère en vérité est déjà là.
Oui, mais il faut ouvrir les yeux.
Mais il faut ouvrir les yeux. C'est exactement comme on dit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des réalités qui sont devant qui. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui sont là, qui sont en train de se passer. Mais on n'arrive pas encore à les percevoir. Mais la réalité est là. C'est que Mashiach est en train de venir. Il est déjà en train de venir. La réalité, c'est que le monde est déjà en train de changer. Mais nous, on ne le voit pas. Il est déjà dans sa route. Mashiach est en Isoa, il disait. Mashiach est dans sa route. Il est déjà là, il est en train de venir. Ça veut dire que c'est pas que un jour, Dieu va dire bingo, ça y est, Mashiach, il vient. Non, c'est pas ça, Mashiach. On est déjà en train de créer Mashiach. Seulement, on voit pas. Et c'est pour ça que le rabbi disait, ouvrez les yeux, Mashiach arrive. Il est déjà en train d'arriver. Ça veut dire, le but de ce cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer que la réalité que je vois avec mes yeux, c'est pas forcément ce qu'il y a. C'est la réalité que Dieu veut bien que je vois. Mais en vérité, quand Dieu va m'ouvrir les yeux, je verrai que la réalité est tout autre.
Et
c'est
si j'ouvre les yeux et que j'arriverai à rien voir, je suis un brel. Je ne vois rien.
T'inquiète pas, tu verras.
Tu n'es pas un brel.
Seulement, il me donne le sentiment que c'est moi qui gère. Donc, conclusion, pour résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui dans chapitre 21, on a expliqué la notion de Tzimtzum chez Eino Kipshuto. Le fait que Dieu se contracte et qu'il est obligé de le faire parce que sinon, on brûle. Mais que cette contractation, cette contraction, la Khazak, et chez l'eau qui pshuto, ça veut dire qu'en vérité, elle n'est pas véridique. C'est une illusion que Kadosh Baruch Hu a fait, mais qu'en vérité, quand va arriver Mashiach, Dieu va nous montrer qu'en vérité, il s'est jamais contracté et qu'il s'est jamais caché. Que même si je crois qu'il s'est caché, dans le voile, il était là. Ça, c'est le pshat du Tania. Très, très grand chidouche. Maintenant, on arrive à la question de Michael, mais ça, on va la développer après Pessah, Bezrat Hashem, puisque la semaine prochaine, on va faire un cours spécial Pessah. On va faire un hors-série, si Dieu veut. Donc, si Dieu veut, après Pessah, on va poser la question de Michael. On va aussi répondre à cette question. Chapitre 22. À savoir, comment comprendre que même le mal, c'est Dieu qui l'appelle le mal. Même ça, c'est Dieu qui est en train de le générer maintenant. Dieu, il te dit c'est mal. Pourquoi il le génère? Ça, c'est une autre question.
Avec aussi le chapitre 22, on peut entrevoir la question de...
Ben, il comprend.
Même de loin, il pleurait. La question de... Tous ces tarés qui sont autour de nous.
Bien sûr. On va parler de ça. 100%. On va parler de ça. On va parler de beaucoup de choses. On va parler aussi... Le chapitre 22, il fait un chapitre à ne pas rater. Et on va parler de la différence entre les goyim et les juifs. Entre les acteurs principaux et les acteurs secondaires. Entre les acteurs et les figurants.
Non.
Qui est acteur, qui est figurant?
Les premiers rôles et les seconds rôles.
Oui, bien sûr.
Pas les acteurs.
Premier rôle, second rôle. D'accord? À quoi sert le bien, à quoi sert le mal? Tout ça, chapitre 22, très 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 important ce chapitre.
On est en tête de série ou on n'est pas en tête de série?
Tu vas à l'Oscar?
C'est quoi le leader
dans notre domaine.
Et tu sauras ce jour. Tu sauras quoi?
Il y a data, c'est-à-dire tu vas comprendre. Ça veut dire que quand Mashiach va venir, tu vas comprendre qu'en vérité, en Galou, toi tu croyais qu'il y a Hachem et Elohim. Qui est Hachem ou Elohim? Ça veut dire que tu vas ramener à ton cœur. C'est-à-dire non seulement tu vas comprendre, mais tu vas réaliser dans ton cœur. Qui est Hachem ou Elohim? Bashamay Mimal va l'arrêt Futarat en od.
Ça va rentrer en toi.
Que du plus haut jusqu'au plus bas, en od, il n'y avait rien en vérité. Moi je croyais qu'il y avait on la mintelle. Il n'y a plus de travail comme Mashiach. Non, ça veut dire, le travail va être seulement de réaliser, de comprendre. Ça va être un waouh. Tu vas dire, mais attends, moi je croyais qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait des niveaux, etc. Tu vas comprendre, en fait, il n'y a pas de niveau, il y avait Walou, tout était le même niveau. Mais ça, c'est extraordinaire, ça.
Tu dis, c'est un travail instantané ou c'est un travail de longue haleine?
Non, c'est pas un travail instantané, c'est un travail de découverte.
Tout
c'est quand on ouvre le rideau, Et finalement, tu découvres, quoi. T'es comme un fou. Tu dis, mais attends, c'est pas possible.
Mais quand j'ouvre le rideau et je découvre, ça veut dire que c'est subi, c'est immédiat, quoi.
Ah oui.
C'est la clarté.
Là, on n'est plus dans le travail. On est dans le travail et la découverte. On est en vacances.
C'est comme quand tu vas au théâtre et que tout est occulté par un rideau.
Voilà, et qu'à un moment, on ouvre.
Mais ça n'empêche pas que tout est derrière, en réalité.
Oui.
Pas prévenu, là, merci. Il faut juste lever pour que.
Voilà.